Voilà, merci, merci frère, merci pasteur. Frères et sœurs, bonjour. Avant d'aller plus loin, ce matin, on a passé un moment, plus qu'un bon moment, un moment où on a pu donner la gloire à notre Dieu. Je crois qu'on peut dire que Seigneur Jésus soit la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la force, la puissance. Et cela pour tous les siècles. Amen. Amen. C'est un privilège pour nous d'être, pour nous réunir. Savons que ce n'est pas toujours évident pour d'autres de nos frères et sœurs. Et nous voulons mesurer ce privilège en étant présent sur Zoom ou ici, dans cette salle, et être reconnaissant au Seigneur, n'est-ce pas? Avant de commencer notre encouragement, il est d'usage, et je crois que c'est normal, de remercier le pasteur ainsi que le conseil d'église dans son ensemble pour la confiance qui est l'occasion qui me donne d'apporter la parole et puis pour l'opportunité que ce conseil donne à Dieu de m'utiliser. Dieu fait ce qu'il veut, mais il veut nous associer, donc il est bon de remercier aussi nos frères pour cela. Au début de mon intervention, il y a une forme d'appréhension qui va disparaître quand la parole sera donnée. Pour l'instant, elle est là, due à ma première et puis due au fait que ça reste la parole de Dieu et que on peut pas s'approcher d'elle n'importe comment, aller voir la donner à un peuple. De la justesse, de la vérité, de l'humilité. Mais c'est dans nos faiblesses que Dieu nous utilise le mieux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Inclinons-nous pour la prière. Notre Dieu, quel privilège pour nous d'être réunis, d'être au pied de la croix, là où Jésus a tout payé pour nous. D'ailleurs, sans cette croix, nous ne serions pas là. Nous serions perdu dans nos péchés, sans espoir d'en sortir. Nous voulons te donner toute la gloire ce matin. Et nous t'implorons d'ouvrir nos cœurs afin que ta parole puisse y pénétrer, afin que nous puissions voir les merveilles de cette loi. Notre Dieu parle, ton peuple écoute, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais nous encourager avec un rappel. Les choses simples sont celles qui rentrent le mieux, et la répétition de ces dernières nous est bénéfique, nous dit Paul. Je voudrais nous rappeler à être des modèles ou à persévérer en tant que modèle, si nous le sommes déjà ici. Nous ne sommes pas conscients d'en être, et bien nous encourager à la fois en être conscient et puis à l'être. Et la parole nous y invite. Et cela va de pair, je crois, avec la direction de l'Église. Je parle de celle-ci parce que depuis fin août que nous sommes là, avec ma famille, donc un petit peu plus de 3 mois, dont 1 mois sur Zoom, donc ça compte pas en présentiel. Eh bien, nous avons constaté comment avance l'Église, pourquoi et pour qui avance l'Église, que nous appelons déjà volontiers notre. Tant nous avons été bien accueillis, et puis où vous savez, quand l'Église du Seigneur, c'est l'Église du Seigneur, on le sent et on le sait. Quand on entre dans l'Église du Seigneur, on le sait. On le sait au fond de soi, et on le sait certainement parce que le Seigneur nous le révèle, mais on le ressent également. Et nous avons trouvé ça ici. La sanctification, la persévérance, la vérité, l'attente du retour du Seigneur Jésus, mais une attente dynamique, pour reprendre les termes du cher au pasteur, attente dynamique du retour du Seigneur. Et être un modèle est un des nombreux moyens de sanctification. Il y a un article très intéressant que j'ai trouvé sur le site d'une église protestante évangélique. Je vous la lis. En 1990, l'université de Harvard, aux États-Unis, a mené une étude approfondie pour déterminer la manière la plus efficace de transformer les vies. Et même ceux qui ont conduit cette étude ont été surpris. Le résultat a été que, au milieu du monde dans lequel on est, un monde sophistiqué, rempli de technologies et de techniques, ça c'était en 90, donc il y a 30 ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui, eh bien la meilleure manière de transformer une vie, c'est la puissance de l'exemple, en somme du modèle. Albert Schweitzer, qui était un pasteur du siècle dernier, au début du siècle dernier, qui était un théologien, un prix Nobel également, alsacien, d'où le nom, avait déjà dit, avant cette étude, que l'exemple n'est pas l'élément principal pour influencer autrui, c'est la seule chose. Je crois que nous sommes d'accord avec ça, parce que le Seigneur Jésus a laissé l'exemple à ses premiers disciples, et puis nous, les disciples d'après également. Beaucoup plus proche de nous, le 15 juillet 2018, la France est devenue pour la deuxième fois de son histoire championne du monde de football. Quelques minutes après la fin du match, on a pu voir un peu partout sur les télés que partout sur le territoire national, des journalistes sont allés à la rencontre de jeunes, ou même de moins jeunes, mais surtout des jeunes, pour recueillir leurs impressions. Et puis, donc, un tel disait qu'il voulait ressembler à Griezmann, l'un des joueurs, l'autre disait qu'il voulait un destin à la Giroud, d'autres encore que Lloris était son idole, tous des joueurs de cette équipe. C'est un signe de l'influence qu'ont ces sportifs professionnels sur la société, en particulier les jeunes, qui montrent bien que regarder, voir, a un impact sur nos personnes. Ces citations et cet exemple que j'ai pris, comme beaucoup d'autres qu'on pourrait prendre, font écho en vérité de ce que la Bible a déjà enseigné. Ce que tout chrétien est appelé à rechercher pour sa sanctification, sa progression et l'honneur et la gloire du Saint-Nom de Dieu. Prendre Christ pour modèle et être des modèles. Et l'apôtre Paul le souligne dans un ordre qu'il donne à Timothée. Ce sera notre texte de base. 1 Timothée chapitre 4, les versets 12 à 16. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée, appelé son enfant, son fils spirituel, dans la foi, tant il a été un modèle pour lui, puis dans le fait qu'il a été son mentor jusqu'à la fin, afin d'être un bon serviteur de l'Évangile et un bon responsable d'Église. Je lis donc au verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, ton esprit, ta foi, par ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Jusqu'ici notre lecture de la parole de Dieu. À première lecture, on a l'impression que ces paroles de l'apôtre Paul, cette exhortation, c'est pour Timothée. Et on a raison, puisqu'il lui parle à lui, donc c'est à lui. On pourrait penser à deuxième lecture que, de manière plus large, c'est pour les responsables. Et on a raison, parce que Timothée était un responsable, on peut penser que ça peut découler pour les autres responsables. Mais en vérité, si on y regarde à une troisième lecture, eh bien, n'est-ce pas que ces paroles sont applicables, finalement, à tout chrétien? Tous ceux qui sont rachetés et serviteurs du Seigneur. L'apôtre parle ici à un serviteur. Nous sommes tous des serviteurs. Parce que l'apôtre lui dira, sois un modèle. Hein, au verset 12B ou 12C, sois un modèle. La version sommaire dit, efforce-toi d'être un modèle. L'apôtre est en train de dire à Timothée que non seulement sa jeunesse ne doit pas être un frein ou un obstacle à son service, mais que au contraire, dans cette jeunesse dans laquelle il est, eh bien, qu'il fasse tout son possible pour qu'en le regardant, les chrétiens prennent exemple. Dans les commentaires, on nous dit que à cette époque-là, jeunesse, bon, ça pouvait aller jusqu'à 40 ans. Donc, on ne sait pas, est-ce que c'est de 0 à 40 ans. Peut-être que Timothée avait 39 ans. Mais c'est intéressant, le fait qu'il parle de jeunesse, parce que on est jeune à 40 ans, n'est-ce pas? C'est un encouragement, en tout cas, pour les jeunes qui sont dans l'Église, qui ont leur place au milieu de l'Église. C'est un encouragement pour eux, en tout cas, et pour peut-être tous les responsables de jeunes qui... Vous savez, c'est une période charnière. Et je suis convaincu que la meilleure chose qu'un jeune puisse faire, c'est accepter Christ dans sa vie. Et quand ils sont aidés dans des structures, dans l'Église, hein, à savoir le groupe de jeunes, où on les aide à savoir qui est Christ pour qu'ils puissent prendre leurs décisions, la meilleure chose qu'ils puissent faire. Le pouvoir de l'exemple, le pouvoir, si je peux employer ce terme, est incroyable. Certains de nos contemporains, ou même nous, n'avons-nous pas déjà changé, par exemple, de marque, de dentifrice, de voiture, de vêtements, de café, par exemple, suite à une publicité, ou à des lectures? Peut-être qu'avec des discussions avec nos amis, nos parents, nous avons déjà été appelés à changer telle ou telle chose, ou même en voyant chez nos parents ou chez nos amis. Dans la politique, dans la plupart des pays, le respect pour les dirigeants politiques s'estompe de plus en plus. À cause, par exemple, des choses nous sont dévoilées. Par exemple, je prends un cas récent. Le président Giscard d'Estaing, qui est décédé, je regardais un reportage sur lui. On nous faisait remarquer que son début de mandat était super. Et puis au milieu, ça s'est terni à cause d'une sombre affaire avec un dirigeant africain. Et pour beaucoup, c'est ce qui a empêché sa réélection. C'est un exemple. Mais pour montrer que, voilà, que ce soit vrai ou pas, les gens ont vu ça, ou cela a été exposé, et en regardant cela, les gens ont certainement changé d'avis. C'est en tout cas ce que révèle l'enquête. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les cœurs. Cause de mauvaise gestion, des promesses non tenues. Surtout si les hommes placent tout leur espoir en l'homme. Donc ils sont déçus après quand les promesses ne sont pas tenues. La Bible dit « Malheur à l'homme qui prend appui sur l'homme ». Beaucoup plus près de nous, je vais parler de nous-mêmes, parents par exemple. Ne rougissons-nous pas quand tel ou tel enfant, qui est nôtre, que le Seigneur nous a donné, reproduit tel trait de caractère mauvais ou moins bon que nous avons ou que nous avons eu. Des fois, nous disons à nous-mêmes, mais c'est de mon côté qu'il a pris ça. Vous remarquerez que ça, c'est-à-dire ces mauvaises manières, les enfants n'ont aucun mal à les reproduire. Bizarrement, ils ont beaucoup plus de mal quand c'est de bonnes choses qu'ils ont vu de nous. Notre divin modèle à nous, c'est Jésus. Celui que nous devons suivre et imiter, c'est lui. Et dans ce texte, l'apôtre Paul va détailler 5 points sur lesquels Timothée doit travailler, parce qu'il va devoir travailler à cela. Quand on vient à Christ, on est modelé, on est changé, et ce, jour après jour. Nous devons le vouloir également. Christ ne vient pas, il ne fait pas de nous des robots. Il y a ce que le Saint-Esprit produit en nous, il y a les efforts que nous avons à fournir. Soyons conscients que ses propres efforts ne sont pas à ajouter au sacrifice de Christ. C'est lui-même qui nous permet de les faire. Le monde nous regarde vivre et nous-mêmes nous regardons vivre. Que nous en soyons conscients ou pas. Notre vie de ressuscité nous pousse à honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie. Mais avec Jésus. Car sans lui, on ne peut rien faire. Jean 15, verset 5. Paul, ici, donne non seulement un conseil à Timothée, mais littéralement, c'est un ordre, en fait. Quand il dit « Efforce-toi » dans la version Semeur ou encore dans la version Second que je lis, « Sois un modèle », en vérité, c'est un ordre, ici. Parce que le terme d'origine, le terme grec, parangelo, en fait, signifie donner un ordre militaire qui doit être ni plus ni moins qu'exécuté. J'ai été militaire avant, quand j'avais 20 ans, et tous ceux qui ont été militaires ici savent que les ordres militaires ne se discutent pas. Ils sont faits pour être entendus et exécutés, n'est-ce pas, frère? Et l'armée traite les désobéissants par divers moyens. Ça va du trou, communément dit, jusqu'à la cour martiale, c'est-à-dire le tribunal militaire. Et je ne peux continuer cette phrase sans dire... Mais gloire soit rendue à Dieu, lui ne nous traite pas comme ça. Lui est un Dieu bon avec nous. Et l'apôtre Paul qui était un homme pratique et pragmatique, vous remarquerez que dans tous ses écrits, tout ce qu'il demande, sous l'inspiration du Seigneur, il est pédagogue au point qu'il donne la solution. Dans tous ses écrits, il dit, vous devez faire ça, et il dit, voici comment vous devez le faire. Et s'il y a cinq manières de considérer ce qu'il dit à Timothée, il parle de la parole, premier point. Soit un modèle pour les croyants partait, parole. Une parole qui se doit d'être cohérente avec la nouvelle vie vécue. Et force est de constater que ce n'est pas toujours évident d'avoir toujours une saine parole. Des fois, de contrariété peut, de manière accidentelle, bien sûr, malheureusement sortir des paroles. La Bible dit grossière, donc je dis grossière. Hein, je ne cherche pas à nous dédouaner grossière. Si la Bible dit ça, c'est que c'est ça. Et nous avons souligné auparavant que les enfants apprennent bien aussi cela. Hein. Les mots amour, ils ont plus de mal, mais les autres, oui. Mais des fois, même pas besoin d'aller par là, les paroles grossières. La calomnie, la médisance, tout ça sont de mauvaises paroles aussi, bien-aimés. Et quand Paul parle à Timothée ici, quand il lui donne ce premier ordre, je t'ordonne d'être un exemple par tes paroles, cela résonne particulièrement dans nos cœurs, en étant sincère avec nous-mêmes. Et pas seulement dans ses prédications, mais pour toute parole qui sortirait de sa bouche. En Éphésiens 4, 29, par exemple, Paul avait déjà dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quoi ? Quelques bonnes paroles, oui, bien-aimé, qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Voilà un exemple positif en parole. Que toute parole qui sort de notre bouche serve à l'édification commune et communique une grâce. Que nos paroles fassent du bien et non du mal. Il y a un proverbe qui dit de tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler. Il faut le faire. Mais nous pouvons y arriver. Grâce à Dieu. Pour communiquer ce qui encourage, ce qui édifie. C'est aussi l'occasion pour nous de remettre notre langue chaque matin à Dieu. Vous savez, moi, depuis quelques années, j'ai pris l'habitude, ça ne vient pas de moi, hein, je l'ai pris d'un pasteur quand on était en Martinique. Lui, le matin, en fait, il dépose son corps. Il nomme les membres de son corps, et puis il remet ça à Dieu. Et puis j'ai pris l'habitude de le faire. Je vous promets que les fois où je ne l'ai pas fait, je l'ai ressenti durant la journée. Avec regret, le plus souvent. Mais, pourquoi pas? C'est une bonne habitude. Et puis, en quelque part, le Saint-Esprit nous le rappelle durant la journée. N'oublie pas que tu as déposé ça. C'est une application très pratique pour nous, en tout cas. Le deuxième domaine, c'est la conduite. Peut-être ce qui est le plus perçu. Tout simplement parce qu'on se regarde, on se voit. On voit notre conduite. C'est pas si évident à expliquer. Et Jésus utilisait les paraboles. Je vais utiliser une petite image que j'ai trouvée qui me paraît plus parlante. C'est comme si deux personnes discutent. Une personne, la première par exemple, faisant vivre de terribles choses à sa famille, par exemple, sur le plan moral, sur le plan physique et psychologique, et ça existe dans le monde, eh bien, c'est comme si cette personne disait à l'autre, le plus important pour moi, c'est la famille. Et puis, l'autre, sachant ce qu'il fait vivre à sa famille, lui répond, mais mon ami, ou bien mon vieux, ta manière de vivre parle si fort que je n'entends même pas ce que tu me dis. Eh bien, c'est une image, mais qui est parlante. La conduite. Paul ordonne à Timothée, je t'ordonne d'être un exemple parce que tu montres de ton foyer, au travail, dans la maison de Dieu, dans les activités, en fait, peu importe ce que tu fais, je te l'ordonne, sois un exemple. Ça me rappelle plusieurs épisodes que j'ai vécu quand je travaillais dans un magasin de bricolage à Alès. J'avais un collègue qui se plaisait à me rappeler ce que je ne devais pas dire, où je ne devais pas aller et ce que je ne devais surtout pas faire. Et il accompagnait ça de ce que lui faisait. Donc il me disait que, par exemple, le week-end dernier qu'il avait été là, au caveau, il passait ses week-ends au caveau. C'était une boîte de nuit. Il me disait, mais par contre, toi, tu n'as pas le droit d'y aller, etc. Et ça s'est intensifié quand je leur ai annoncé, dès le mois de février, donc 6 mois avant ma démission, je leur ai annoncé à tous que j'allais partir pour pouvoir faire ces études-là. Eh bien là, c'était quotidien. Au lieu d'une fois par semaine, eh bien, tous les jours, donc je devais faire tout mon possible pour être un exemple en parole. Et puis, en conduite, bien lui répondre, et puis, pourquoi pas essayer de placer Christ là-dedans. C'était un défi, mais un beau défi, un beau défi. Et puis d'une conduite qui honore Dieu, eh bien, découle l'amour fraternel, le troisième ordre, commandement, l'amour fraternel, ce mot précise. La conduite d'amour selon Dieu, qui se manifeste par l'amour fraternel, eh bien, ne fait pas que parler. Et c'est l'apôtre Jean qui nous le rappelle, avec force, hein, en 1 Jean 3, 17, texte bien connu de la parole, qui nous dit, bien-aimé, si quelqu'un possède les biens de ce monde, eh bien, si un tel frère voit son autre frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Eh bien, petits enfants, n'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais en acte et en vérité. Donc, l'amour fraternel se traduit en acte et ne reste pas à la bouche. Et je crois que quand on veut bien y réfléchir, la liste peut être importante et non exhaustive. Le diaconat. Là, je dis uniquement des choses que j'ai appris qui se passent ici, hein, que je n'ai pas forcément connu à Alès et qui m'a interpellé. Le diaconat, les encouragements, par exemple sur le groupe WhatsApp de l'église, les coups de fil. J'ai mis 3 points de suspension parce que je pourrais rallonger. Mais les démonstrations concrètes de l'amour fraternel ne sont pas limitées. Il suffit de se mettre au service et ça vient tout seul. Il y a aussi le fait que l'Église, d'ailleurs le pasteur est président de, vous savez, hein, l'aide pour la Côte d'Ivoire, Haïti, la mission biblique. Voilà, il est venu déjà à l'Institut en début d'année pour en parler, lors de temps consacré à cela. Donc voilà, manifester l'amour fraternel, nous pouvons le faire, et d'après Paul même, nous sommes dans l'obligation de le faire. Quand nous continuons, Paul parle de foi. Le mot peut être traduit également en fidélité. C'est d'ailleurs le mot d'origine, le mot grec pistos, peut signifier les deux selon le contexte dans lequel on l'utilise. Soit la foi, soit la fidélité. En somme, c'est la même racine. Et la base, c'est que Dieu est fidèle et que nous, nous appartenons à Dieu. Donc, nous devons être fidèles. Nous n'ajoutons rien à la parole, mais s'il est dit « Soyez saints car je suis saint », rien ne nous empêche de dire « Soyez fidèles car je suis fidèle ». Et par notre propre fidélité, certainement imparfaite, hein, ne l'oublions pas, nous montrons Christ à ceux qui nous regardent vivre. Par le fait que nous venons au culte sans cesse, non pas comme une contrainte, mais comme une nécessité. Et puis, un côté joyeux, parce que nous le sommes. Ce n'est pas un rôle que nous jouons. Nous sommes reconnaissants à Christ pour le salut qu'il nous a si chèrement acquis. Le voisin qui nous invective pour voir notre réaction, le collègue qui fraude pour voir si on le suit, ça je l'ai vécu aussi. Eh bien, là aussi, la liste peut être longue. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul souligne que ce qui est demandé aux responsables, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Non pas que chacun ait un aura ou une aura, que dit-on, un aura particulier ou soulève les foules, non, mais qu'il soit trouvé fidèle au pied du Seigneur. Et chacun, on a notre rôle à jouer dans l'Église. Un rôle n'est pas plus important qu'un autre. Parce que quelqu'un qui remplit son ministère, son rôle, ne peut pas faire celui d'un autre. Parce qu'il a sa part à faire. Il faut qu'il soit fidèle dans sa part. Il ne peut pas faire sa part fidèlement et faire celle d'un autre fidèlement. Ce que nous avons, ce que le Seigneur nous confie, met sur notre cœur dans l'Église, doit être fait avec fidélité, avec endurance et persévérance. Et là, ce n'est pas qu'un ordre. C'est aussi en reconnaissance à ce qu'a fait notre Sauveur pour nous. Nous voulons non pas lui rendre ce qu'il nous a fait, c'est impossible. Mais par nos faibles moyens, nous voulons au moins nous montrer reconnaissants. Dieu nous appelle à la fidélité. Une cohérence entre ce que nous disons croire et ce que nous devons être. Interpeller les gens et leur parler de Jésus. Cela parle plus s'ils voient en nous une fidélité. Et puis le dernier domaine dont parle Paul est la pureté. Soit pur. là encore, on dit pur, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et le mot de base, en fait, fait référence à une pureté morale, finalement, celui qui est employé, une pureté morale. C'est-à-dire qui fait que nous faisons des choix libres de comportement. C'est-à-dire, faisons des choses par choix et de manière libre, sans que nous ayons été obligés. Et ce mot est utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament pour parler du comportement du Naziréen. Vous vous rappelez en Nombre 6, le Naziréen était un homme du peuple qui faisait un vœu et qui volontairement ne se coupait plus les cheveux comme signe visible de son vœu. Il s'abstenait également de l'alcool, carrément de tout produit de la vigne, le vinaigre et les raisins. Et son engagement était si rigoureux, à part le fait qu'il avait les cheveux et la barbe jusqu'ici, si son vœu durait 5 ans, eh bien, il ne pouvait non plus pas toucher un cadavre, y compris celui d'un de ses plus proches parents, dans le cas où celui-ci, ce parent, venait à mourir durant son vœu. Et cela souligne ici non seulement son comportement, qui était donc exemplaire, rigoureux dans tous les domaines, mais c'était également un exemple de conduite bien visible. Donc ça, on aurait pu le mettre dans le domaine de la conduite. Mais le terme ici désigne justement la pureté. Ce côté où lui-même a fait ce vœu sans avoir été obligé de le faire. Et donc, comme il l'a fait volontairement, il met tout en œuvre pour bien le tenir, ce vœu. Et donc, quand Paul dit ici à Timothée d'être un modèle en pureté, avec tout ce qu'on peut comprendre de cela, ça veut dire que, en gros, hein, Jésus t'a sauvé, sois pur. C'est-à-dire, fais tout pour vivre d'une manière sainte, t'abstenant de telle chose, et au contraire, te nourrissant de telle ou telle chose. Bien sûr, telle ou telle chose, se nourrir, c'est bien sûr la parole de Dieu. C'est la relation avec Jésus par la prière. Eh bien, c'est cela qu'on peut essayer de comprendre par pureté. Mot pas si évident. Pas si évident. Mais comprenons-le, il y a lutte. Dans tous ces domaines. Ce n'est pas tirer une chaise près d'une table, pour le dire ainsi, mais il y a bien la lutte, lutte divine. Cela fait écho aussi aux paroles de Paul quand il dit qu'il traite durement son corps et qu'il le tient assujetti. 1 Corinthiens 9, 27. C'est le même mot qu'emploie Paul ici. C'est-à-dire qu'il fait ça volontairement et qu'il lutte. C'est le même mot qu'il utilisera en 1 Timothée 5, 2, par exemple, quand il dira à Timothée de reprendre les femmes âgées comme des mères et les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Paul souligne ainsi à Timothée et à nous par la suite que faire ce qui nous plaît, c'est-à-dire vivre comme on veut, ne correspond pas à notre vocation. Je crois que c'est clair. Notre vocation, c'est de plaire à Jésus, plaire à Dieu, en reconnaissance pour notre salut et les nombreux privilèges que nous avons. Et dans sa prière, le frère Iras l'a souligné avec beaucoup de force. Nous laisser modeler par lui, nous épanouir activement à son service. C'est un engagement, bien-aimé, total. Transparent, sain de pensée, honnête. Voilà, il ne s'agit pas de nous tromper nous-mêmes. Nous savons les lacunes que nous avons, où elles sont, et nous voulons plaire à notre Dieu. Donc, il y a des choses à faire. Il y a à compter sur la grâce de Dieu, et il y a des efforts. Il faut transpirer pour pouvoir tenir ce corps en bride. Mais heureusement pour nous, nous ne luttons pas seuls. Même cette lutte que nous faisons nous est donnée par Dieu. Tout nous est donné. Nous luttons, cela nous est donné. Nous devons transpirer. Dieu nous aide à transpirer. Nous ne transpirons pas tout seuls. Ce sont des applications très pratiques pour nous, qui ne restent pas au niveau de l'intellect, mais qui doivent se traduire tous les jours en marche, en pas pressé et en course. Paul soulignera que c'est pour atteindre le prix de la vocation céleste. Il soulignera que c'est pour atteindre la couronne incorruptible, celle qui est réservée à tous ceux qui ont placé en Jésus leur vie. Car n'oublions pas que nous ne sommes que de passage ici et que nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement sur la terre, mais que nous attendons une nouvelle terre et de nouveaux cieux, où nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et c'est là notre espérance. Et c'est une espérance vivante. C'est elle qui nous fait avancer. En dépit des difficultés, en dépit des fins de mois difficiles, en dépit du fait d'être raillé par les collègues de travail, par les collègues étudiants, par les collègues à l'école, en dépit du monde qui nous entoure et qui des fois nous lance des pierres en parole, en dépit des épidémies, en dépit de tout ce qu'on peut imaginer. Rappelons-nous que nul ne pourra nous ravir notre joie, celle qui fait qu'un jour nous serons là-haut avec le Seigneur. Et nous louerons pour l'éternité. Intellectuellement, je pense qu'on ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire. Éternité. Consolons-nous en nous disant que notre place est là-haut. Écrite dans le livre de vie. Que le Seigneur reviendra nous chercher. Voici notre vocation. Paul souligne au verset 15, pour terminer, que la lecture de la parole, l'exhortation et l'enseignement servent à faire de Timothée, et donc de nous tous, un exemple de vie, un modèle. Le travail, j'ai envie de dire, est mâché ici. Puisque en lisant la parole et en faisant l'effort d'exhorter, c'est-à-dire d'encourager nos frères et sœurs, et puis d'enseigner. Enseigner, ce n'est pas forcément celui qui est derrière la chaire. Eh bien, font de nous, fait de Timothée, un modèle, des exemples. Il faut s'appliquer à le faire, il faut s'entraîner, il faut persévérer. pour montrer des progrès dans notre vie et qu'ils soient évidents. Au verset 16, Paul mettra même la vie de Timothée avant la doctrine. Il dira, veille d'abord sur toi-même, sur tes paroles, donc, sur ta conduite, sur ton amour, sur ta foi, sur ta pureté. Veille d'abord sur toi-même. Être des modèles suivant le modèle parfait, bien-aimé, je le rappelle, est bien notre vocation. Osons être des modèles. Nous le pouvons, non par nous-mêmes, ne l'oublions jamais, non par nous-mêmes, mais uniquement par la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Gloire à Dieu.